France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Il est des matins où l'horreur, la gravité d'un événement vous prend littéralement à la gorge. Et pourtant, il faut reprendre ici le fil d'autres problématiques importantes où se mêlent cette fois crise sanitaire et crise économique, manœuvres diplomatiques et enjeux politiques. Au bout de 4 ans, le feuilleton du Brexit fatigue jusqu'au plus fervent de ses protagonistes. On sait depuis longtemps qu'il n'y aura pas de happy end, mais il faut conclure avant la fin de l'année et la Covid-19 impose évidemment à tous d'autres urgences. Un mauvais accord vaut-il mieux que pas d'accord du tout pour définir les relations entre le Royaume-Uni et le continent à partir du 1er janvier prochain ? Depuis hier, le ton s'est nettement durci. À Bruxelles, le Conseil européen a proposé de reprendre les discussions tout en insistant sur le respect intégral de l'accord conclu en janvier dernier et sérieusement ébréché par Boris Johnson. À Londres, le Premier ministre affirme que les 27 ne font montre d'aucun progrès, qu'ils doivent changer radicalement d'approche et que le Royaume se prépare à sortir sans accord. Ça nous va très bien de parler des détails pratiques, a-t-il ajouté à la télévision. Fanfaronnade, ultime tentative de fracturer une Union européenne jusqu'ici solidaire, ou fuite en avant d'un Bojo bousculé par sa gestion erratique de la crise sanitaire qui secoue sa propre majorité et ravage évidemment son économie. Évitant une fois de plus la responsabilité de la rupture, Michel Barnier reprendra lundi le dialogue avec son homologue britannique. Entre-t-on enfin dans la dernière ligne droite, ou plutôt dans les dernières sinuosités de cette négociation complexe, qui en paiera de toute façon la plus lourde facture, entre Brexit et Covid, entre l'Écosse et l'Irlande du Nord, Boris Johnson risque-t-il la désunion du Royaume ? L'Union européenne continuera-t-elle de faire front et s'en tiendra-t-elle au respect de ses principes et de ses intérêts ? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Hélène Rey, bonjour, vous êtes professeure d'économie à la London Business School, merci d'être avec nous en direct depuis Londres, bien sûr. Calypso Nicolaïdis, vous enseignez les relations internationales à l'université d'Oxford. Avec nous aussi, et je l'accueille avec plaisir, Elvire Fabry, vous êtes chercheuse en charge de la politique commerciale à l'Institut Jacques Delors. Et par téléphone, Charles Grant, le directeur du Center for European Reform à Londres, et Kevin O'Rourke, qui enseigne l'économie à l'Université de New York, Abu Dhabi, et qui, comme son nom l'indique, a un très beau nom irlandais. Charles Grant, je commence bien sûr avec vous. Les déclarations de Boris Johnson hier à la télévision, et pardon de vous parler franglais, est-ce que c'est du bluff ou pas ?
C'est probablement du bluff, Christine. À mon avis, Boris Johnson a besoin d'un deal. S'il n'a pas de deal, il va avoir un nombre de problèmes qu'on peut discuter dans un moment. Mais ce qu'il fait, il essaie de provoquer une crise pour que l'Union européenne bouge un peu dans la négociation. C'est une tactique de négociation, à mon avis.
Mais c'est une tactique qu'il a déjà tentée plusieurs fois sans aucun résultat. On voit que les 27 sont restés extrêmement solidaires. Il n'y a pas eu de fissure, contrairement à ce que manifestement il espérait.
Ça c'est vrai. On pourrait attendre à terme peut-être quelques fissures. Si les Britanniques, par exemple, allait proposer un deal sur la pêche qui était raisonnable, soi-disant. Puis on pourrait voir peut-être un moment de pression des Allemands sur les Français à engager, à compromiser, à faire des négociations bien. Mais pour l'instant, comme vous dites, c'est pas le cas. Les Britanniques se comportent d'une manière qui l'Union européenne trouve ridicule. Alors les 27 restent unis pour l'instant.
Et quelles sont les réactions, Charles, ce matin à Londres, réactions politiques et médiatiques aussi, j'imagine, les réactions des milieux d'affaires, parce qu'il y a quand même une très nette crispation depuis hier.
Les milieux d'affaires, les businessmen et les businesswomen, ils ont peur d'un no-deal Brexit parce que ça va créer un nombre de problèmes, les tarifs et d'autres problèmes de bureaucratie pour le commerce entre nous et l'Union européenne. Mais le problème, c'est que ce qui est un peu bizarre, le gouvernement britannique et les gens qui sont très proches de Boris Johnson, ils ne s'intéressent pas beaucoup dans le milieu d'affaires, ne s'intéressent pas beaucoup dans l'économie. Pour eux, ce qui vraiment compte, c'est la liberté, c'est la souveraineté, c'est le fait que les règlements de Bruxelles ne doivent plus toucher les Britanniques. Et si vous leur dites, oui, mais si vous faites ça, s'il n'est pas s'il y a un Brexit no deal, puis il y aura des problèmes économiques, ils disent, c'est le prix qu'on peut payer pour la liberté. C'est un peu bizarre. C'est difficile pour l'Union européenne à se rendre compte de la psychologie des gens qui sont proches de Boris Johnson.
Oui, une psychologie encore plus insulaire
Oui.
que celle de la plupart de vos compatriotes, Charles.
Oui.
Elvire Fabry, Institut Jacques Delors, ici sur le continent, on a vu le communiqué très ferme du président du Conseil, Charles Michel, qui a dit dès jeudi, lors de ce Conseil européen, il faut que l'accord conclu en janvier soit intégralement respecté. On sait que Boris Johnson a fait passer un projet de loi qui ébrèche déjà cet accord et qui remet en cause cette histoire extrêmement épineuse de frontières entre les deux Irlandes. On a vu Madame von der Leyen hier tendre à nouveau la main en disant nous sommes prêts à ce qu'une délégation aille à Londres, et on a vu hier le porte-parole de Downing Street qui dit ah non 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 non, Michel Barnier pas du tout le bienvenu. Alors il semblerait que Barnier va discuter du format des pourparlers. Qu'est-ce que ça veut dire en français le format des pourparlers?
Le format des pourparlers. Alors, est-ce que là, il évoque la question de la gouvernance, qui est une, on sait, une des trois questions qui sont épineuses dans cette dernière ligne droite des négociations. Il y a la question des aides d'État, il y a la question de la pêche, et puis il y a la question de la gouvernance. Je pense que il est, à vrai dire, là, on essaye de voir un petit peu comment réengager les négociations, parce que il faut garder à l'esprit que là, le Boris Johnson essaye de rejeter sur les Européens la responsabilité du blocage, alors
Encore
que
une fois, le blame game, comme on dit en franglais.
oui, et il a tout intérêt parce qu'il galvanise un peu son soutien côté britannique et il prépare un peu le terrain pour et également pour essayer de fragiliser la position, la cohésion des 27. Et en même temps, s'il y a bien un côté qui a bougé pour le moment, ce sont justement les Européens, parce que sur cette question des aides d'État, au départ, on avait une position très maximaliste. On demandait aux Britanniques de vouloir s'aligner dynamiquement sur l'évolution des règles européennes, pas simplement les reprendre, mais accepter une évolution des règles européennes.
Juste une précision, les aides d'État, ce sont les subventions publiques aux entreprises.
Exactement, une question qui est plus que jamais cruciale aujourd'hui à l'ère de la gestion de la pandémie et de la crise économique. Et on voit bien que ça sera un enjeu majeur dans les années qui viennent, alors que partout se déversent des flots de subventions publiques nécessaires pour gérer la crise. Mais on a affaire aujourd'hui à un Boris Johnson qui se veut beaucoup plus interventionniste, qui est en train de transformer complètement la politique économique traditionnelle d'un parti conservateur. Et les Européens sont très vigilants sur cette question. La cohésion des 27 est très forte, mais ils ont déjà bougé de cette position maximaliste, d'un alignement dynamique, vers ce qui serait une clarification de principes généraux et se mettre d'accord sur un mécanisme pour régler éventuellement des contentieux. Donc, au contraire, les Européens ont déjà fait un pas en avant pour essayer d'engager le dialogue et essayer de continuer à aller vers la résolution d'un accord.
Alors, Boris Johnson, avec l'espèce de gouaille qui le caractérise, a dit, ah ben, c'est très simple. Nous, on propose aux Européens le modèle canadien et ils n'en veulent pas. C'est quoi le modèle canadien? Il n'a jamais été question du modèle canadien.
Le modèle canadien, en fait, ce serait un accord de libre-échange qui est un peu l'accord de nouvelle génération où on se met d'accord sur les biens, les tarifs. On supprime les tarifs et en l'occurrence avec le Royaume-Uni, donc on évite d'en rétablir. Et il y a de la coopération réglementaire et on essaie de faciliter le commerce. Ce qui se passe, c'est que les Européens, depuis maintenant des mois, ont clairement insisté en disant le Royaume-Uni est une grosse économie, très proche, très intégrée à l'Union européenne. Ça ne peut pas être n'importe quel accord et il nous faut des garanties supplémentaires.
Retournons à Londres, vous rejoindre Charles Grant. Quelles sont les concessions qui, à partir de lundi, pourraient rétablir un dialogue? Il faut quand même rappeler que voilà, il faut quand même arriver au bout de cette affaire d'ici la fin de l'année.
Je crois que la pêche, c'est le sujet le plus difficile. Sur les aides d'État et la gouvernance, on peut voir plus ou moins les compromis qu'il faut. Sur la pêche, les Britanniques doivent dire, je crois, aux petits bateaux français qu'ils peuvent entrer proche à la côte britannique pour trouver les poissons là-bas. Il faut des compromis sur les deux côtés sur la pêche. C'est bien possible. Parce que s'il n'y a pas un compromis, s'il n'y a pas un deal, Christine, ça va augmenter énormément le problème du gouvernement Boris Johnson. Déjà avec le COVID-19, tout le monde dit que le gouvernement n'est pas compétent. Il fait tellement d'erreurs pour cette pandémie. Et si en plus on va quitter la période de transition à la fin d'année sans un accord, puis le chaos aux frontières serait horrible et on va dire c'est la faute du gouvernement Boris Johnson. Alors Boris Johnson a besoin vraiment d'un deal, je crois. En plus, il y a la position de l'Écosse. L'Écosse va tenir des élections au mois de mai prochain. Il y a beaucoup de support pour l'indépendance écossaise maintenant. Et s'il y a un Brexit chaotique avec beaucoup de problèmes, puis ça va augmenter le vote pour les nationalistes en Écosse. Et Boris Johnson sait ça très bien. Alors, à mon avis, la pression pour Boris Johnson, des business, des Écossais, de ses parlementaires conservateurs même, va augmenter énormément pour qu'ils doivent faire des compromis pour trouver un accord, je crois.
Merci Charles. Donc Charles Grant, relativement optimiste. Hélène Rey, bonjour. Est-ce que vous partagez cet espoir d'une reprise du dialogue?
Bonjour Christine. Moi, je pense que en ce moment, on ne peut pas vraiment savoir si on va converger ou pas. Comme il a été dit, on a des pierres d'achoppement qui sont assez importantes. À la fois du côté des distorsions à la concurrence et du côté de la pêche. Ce qui est assez ironique dans cette histoire, c'est que la pêche, c'est un dixième de pourcentage de points du PIB britannique. Donc, c'est vraiment, en termes économiques, ça n'est pas très élevé. Mais cela a pris une importance politique et symbolique qui est dans l'imagination collective qui paraît assez importante. Et il est possible, à mon avis, donc là je suis du côté de Charles, de trouver des compromis dans ces deux domaines. Il y a eu des signaux faibles de part et d'autre de mouvement, donc il serait possible de s'entendre. Mais d'un côté comme de l'autre, je pense que les Boris Johnson en particulier campe un peu sur ses positions pour des raisons de politique intérieure et aussi face à l'aile droite du Parti conservateur. Et donc le danger, c'est que la flexibilité ne vienne pas assez vite du côté britannique, aussi peut-être du côté des 27, pour que l'on puisse s'entendre dans un délai raisonnable. Et ça, je pense que ce serait vraiment très dommageable pour la poursuite des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, parce que même si on arrive à avoir un deal, il faudra toujours continuer à négocier sur tout un tas de sujets qui sont très importants d'un côté comme de l'autre, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la coopération de la recherche. Il y aura énormément de sujets qui vont venir sur la table et donc il faudrait ne pas rester d'un côté comme de l'autre dans des acrimonies en ce moment.
Il faut dire que l'ampleur comment dire ça poliment, du bazar créé par une sortie, j'allais dire brutale, enfin une sortie non tempérée de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, est absolument effrayante. J'ai lu donc une note britannique qui chiffre, et je vais tenter de le traduire en euros, les frais disons, bureaucratique, à plus de 7,5 milliards d'euros, les frais pour la Grande-Bretagne, hein, 215 formulaires de plus, 50 000 formulaires douaniers, à peu près 82 millions d'euros pour mettre en place des ferries, des bateaux en urgence. 10 nouveaux postes de douane et 320 euros d'amende pour les camions qui ne se procureraient pas le formulaire pour faire la queue dans le Kent, qui est donc la province britannique la plus proche des côtes, sans passeport. Donc on prévoit que le Kent va être embouteillé du matin au soir et du soir au matin par des files de camions. Donc cette énorme facture, Hélène Ray, est-ce que c'est un moyen pour Boris Johnson et son gouvernement de masquer la facture du Covid?
Alors, vous avez tout à fait raison. D'une part, que le Brexit arrive à un moment où l'économie britannique est déjà très, très affectée par la crise du Covid. La reprise de l'été s'est déjà bien essoufflée et on estime qu'on retrouvera l'activité de pré-pandémique seulement tard dans l'année 2022, selon les prévisions raisonnablement optimistes. Donc, il y a déjà eu un déclin assez fort de tous les échanges dans l'économie britannique, si on pense au domaine du tourisme, au domaine du commerce international, si on pense évidemment au secteur de la restauration. Et donc, les mauvais esprits pourraient penser que le Brexit passera un peu plus inaperçu qu'il ne l'aurait été dans ces circonstances-là, puisque l'économie est déjà relativement faible. Mais les secteurs qui seront affectés par le Brexit ne seront pas les mêmes que ceux qui ont été le plus affectés par le Covid. Pour le Covid, comme je l'ai dit, c'est comme en France, le secteur de la restauration, etc. Pour le Brexit, si on a un Brexit dur, l'industrie va être très affectée. Mais aussi les services, en particulier les services financiers, risquent d'être très affectés. Donc cela va être vraiment un double coup sur la tête de l'économie britannique. Et pour le Premier ministre, je pense que ça va être très difficile à gérer. Dans le long terme, on a des estimations qui disent quand même que sur 10 ou 15 ans, un Brexit dur conduirait à une réduction du PIB qui serait d'environ 8 points à ce qu'il aurait été sans Brexit. Donc, si dans le court terme, le choc Brexit sera certainement moins visible que le choc Covid, qui a été énorme, dans le long terme, le choc Brexit aura aussi des conséquences très importantes et qui seront très difficiles à justifier.
Hélène Ray, restez avec nous. S'il vous plaît, parce que j'aimerais que nous allions à Oxford vous rejoindre, Calypso Nicolaïdis, bonjour. Je rappelle que vous enseignez dans cette célébrissime université les relations internationales. Néanmoins, expliquez-nous les enjeux politiques de Boris Johnson dans cette période tellement difficile pour tout le monde et pour nous, si j'ose dire, ce matin, encore plus. Comment les résumer, ces enjeux politiques? On a vu qu'il y a eu une fronde au sein même du parti conservateur et une fronde aussi qui rappelle une problématique française de certains maires de villes du nord de l'Angleterre, ces villes que le parti conservateur avait conquises aux dépens du parti travailliste lors des dernières élections générales.
Bonjour Christine. Et effectivement, quand on est français habitant en Angleterre, on est témoin d'une vraie guerre sur une autre union, pas l'Union européenne, mais l'union effectivement du Royaume-Uni, avec en fait deux niveaux de débat. D'une part, effectivement, il y a beaucoup plus de décentralisation au Royaume-Uni entre l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Et là, on voit que chacun essaye vraiment de montrer qu'il fait mieux que l'autre. Et Westminster essaye de garder l'union et d'avoir des règles qui s'appliquent à tous. Mais là où il y a un enjeu beaucoup plus flou et compliqué, c'est bien sûr ce dont vous faisiez allusion à l'instant, c'est-à-dire les villes. Parce que, eh bien, les villes, elles n'ont pas autant de compétences formelles, Mais c'est elles qui sont sur le terrain, c'est elles qui non seulement gèrent les conséquences, mais qui aussi gèrent les mesures sur le Covid, c'est-à-dire les apps qui sont aussi locales. Et alors,
Les apps,
c'est-à-dire les applications.
Ah, les applications, d'accord.
En France, le stop Covid qu'on a en France. Et alors, depuis de plusieurs semaines, mais ça a explosé hier, en même temps que le sommet sur le Brexit, elles disent, on ne peut pas, vous ne pouvez pas nous imposer depuis Westminster des coûts économiques énormes en fermant tout chez nous, et en particulier dans le nord-ouest de l'Angleterre, vers Liverpool, etc., et sans nous donner plus d'argent pour tenir sous ces coûts. Et donc, il y a une vraie lutte, un enjeu de pouvoir. Et on pense en France aux régions, il y a eu un peu la même chose, mais je dirais que c'est bien plus intense du côté britannique.
Et c'est là où on retrouve la problématique des aides d'État auxquelles Charles Grant faisait allusion dès le début de cette émission. C'est-à-dire que le gouvernement conservateur, contrairement à la tradition libérale des conservateurs britanniques, intervient massivement dans l'économie, comme tous les gouvernements européens d'ailleurs. Et donc là, cette intervention touche directement à l'accord qui avait été signé, Calypso, en janvier dernier, entre les 27 et Londres.
Oui et non, parce que comme le disait tout à l'heure Elvire, les aides d'État aujourd'hui en Europe, les règles européennes sont presque suspendues. Il y a eu un mémo de la Commission qui explique que bon, on vous surveille encore, mais elles sont suspendues et elles rendent un peu fou. D'ailleurs, les autres États européens, ceux qui ne sont pas l'Allemagne, on sait très bien qu'en Europe, la moitié des aides d'État sont données en Allemagne. Si vous parlez aux Portugais, aux Grecs, aux Lituaniens, ils disent oulala, on veut des règles d'État plus fortes parce que on veut pouvoir être en concurrence loyale avec l'Allemagne. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, la pierre d'achoppement qui est sur les aides d'État, c'est les Britanniques qui, politiquement, pensent à deux fronts. Ils sont concernés d'une part, comme vous le disiez à l'instant, Christine, le mur rouge. Il faut qu'on garde nos électeurs ex-travaillistes en les aidant dans... si ce n'est à faire revivre les industries, en tout cas à gérer leur transition dans l'économie moderne, etc., etc. Donc il y a ça, et ils voudraient effectivement pouvoir le faire comme ils veulent. Là où ils se trompent, c'est que il y a quand même une bonne marge dans les règles européennes. Mais il y a un autre front, et ce qui est lui aussi ironique et qui est très très cher à Dominic Cummings, le fameux conseiller de Boris Johnson qui fait scandale. Lui, son obsession, c'est le high tech, c'est l'intelligence artificielle, c'est tous les sujets dont nous savons tous qu'ils vont déterminer l'avenir, même géostratégique. Et il pense que effectivement, en sortant de l'UE, le Royaume-Uni pourra aider ses industries à devenir les plus performantes du monde. En subventionnant la recherche, les talents, etc. Je dirais que là aussi, ils se trompent parce que, ils se trompent pas en espérant effectivement et en disant que ces industries sont fondamentales, mais ils se trompent en pensant que l'UE ne permet pas de subventionner la recherche ou
au contraire, et singulièrement la recherche dans votre propre université, Calypso à Oxford.
Absolument. Oxford bénéficie chaque année de presque 400 millions d'euros de soutien à la recherche, mais qui sont dans des réseaux pan-européens. Donc pour nous, rester au moins dans la zone de recherche commune de l'UE, c'est fondamental. Quand je dis pour nous, les universités, pas seulement Oxford. Et tout ça, et effectivement, mieux si on reste dans l'UE. Mais il y a cette idée... qu'effectivement, l'UE, une idée à Londres, que l'UE est lente à s'adapter. Et c'est vrai qu'on entend Thierry Breton, notre commissaire français à la Commission, chargé du marché unique, qui lui-même, parfois, est un peu frustré, qui lui-même veut adapter les règles de l'UE pour que ces secteurs si importants puissent se développer. Donc, c'est l'idée en Grande-Bretagne. Il nous faut être libres, bien sûr, idéologiquement, parce comme ça, comme disait Charles Grant, mais aussi parce qu'on veut faire partie des meilleurs avec la Chine et les États-Unis dans ces industries d'avenir.
Calypso Nicolaïdis, restez avec nous. Elvire Fabry, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors à Paris. Cet argument, on voit bien à quel point l'enjeu de l'économie d'aujourd'hui et de demain et d'après-demain va se jouer sur le terrain technologique. C'est un argument qui n'entre pas jusqu'ici dans les négociations Europe, Grande-Bretagne, si je peux m'exprimer ainsi.
Ben, indéniablement, comme vient de l'évoquer Calypso, côté européen, les choses bougent. Oui, on a suspendu temporairement les règles sur les aides d'État pour donner plus de facilité aux États membres. Mais elle reste encadrée, il y a une échéance, il y a des règles quand même dans l'utilisation de ces aides d'État. Et puis surtout, on va être amené à réviser ces règles de concurrence en 2021, parce qu'on arrivait à échéance d'un cycle qui avait commencé en 2012. Il y a, côté européen, la volonté de relancer une politique de réindustrialisation. Il y a toute la réflexion sur l'autonomie stratégique qu'il faut essayer de reconstruire, de renforcer, qui est question qui a été relancée par la crise du Covid. Les choses bougent côté européen. Et on veut en effet, et il va y avoir un assouplissement qui va se faire, même en matière de politique de la concurrence. On sait que les Français notamment appellent à pouvoir construire des champions, des grands champions.
Oui, tout le monde appelle européen à la même chose. Évidemment.
Voilà, exactement. Ça reste une question très problématique côté britannique, notamment vous évoquiez la question de l'Irlande du Nord, parce que dans l'accord de retrait, l'Irlande du Nord reste soumise aux règles européennes, mais il y a un élément qui a peut-être été un peu négligé lors de la signature avec les Britanniques, c'est que d'une entreprise qui est à la fois implantée en Irlande du Nord et dans le reste du Royaume-Uni pourrait être rattrapée par ces règles européennes. Et c'est ce qui fait que ça a amené le gouvernement britannique à évoquer la possible dénonciation de cet accord de retrait.
Précisément, l'Irlande du Nord, parlons-en avec vous, Kevin O'Rourke, qu'on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous enseignez l'économie à l'Université de New York à Abu Dhabi. Heureusement pour vous et pour nous, vous êtes en France en ce moment, donc pas de décalage horaire. L'Irlande du Nord, Boris Johnson a quand même brisé la parole britannique, enfin la entaché en quelque sorte, en décidant de passer une loi qui a été approuvée par son Parlement, qui a remis en cause ce traité signé en janvier dernier et qui inclut ce qu'on appelle le protocole irlandais. De quoi s'agit-il ?
Ben, le protocole irlandais, c'était le moyen pour éviter qu'une frontière dure revienne sur l'île irlandaise. Si l'Irlande du Nord était en dehors du marché unique et de l'union douanière, alors il faudrait des douanes, des barrières, des contrôles entre l'Irlande du Nord et la République. Et donc, on a fait en sorte que de fait, l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière et le marché unique. Et il me semble qu'on parle beaucoup de pêche, on parle beaucoup d'aide d'État, on ne parle pas suffisamment du fait que les Britanniques veulent rompre avec un accord qu'ils ont conclu avec nous il y a moins d'un an. Parce qu'il est bien sûr impensable qu'on conclue encore des accords avec un pays qui ne respecte pas ses paroles, qui dégage tous les bénéfices dont ils ont envie d'un accord précédemment conclu. Et alors, nous disent, en fait, on vous a promis X ou Y, mais on va pas le faire quand même parce que ce n'est pas dans nos intérêts. Et ce dont j'ai vraiment peur, c'est que s'il y a une sortie no deal en janvier, ce qui est tout à fait possible, si Johnson se sent obligé pour des raisons de politique interne à ne pas conclure un accord de libre-échange, alors la même logique de politique interne voudra dire que probablement il va non seulement ne pas retirer ce projet de loi illégal, mais il va le mettre en œuvre. Donc il y aura de nouveau...
Ah, nous venons de vous perdre, Kevin O'Rourke. Ça, ce sont les délices de, non pas du téléphone, enfin si, du téléphone et de la technologie. Elvire, je reviens vers vous. Vous êtes avec moi en studio, c'est nettement plus facile. Donc Kevin O'Rourke insiste en fait sur cette espèce de décalage, l'enjeu de la pêche. La pêche, c'est tout à fait important pour les pêcheurs français, les pêcheurs belges. J'ai vu d'ailleurs que le représentant belge à la Commission a fait valoir un traité remontant au milieu du XVIIe siècle permettant à 50 pêcheurs de Bruges de continuer, quoi qu'il advienne, à pêcher dans les eaux anglaises. Comment t'expliquer ce décalage entre l'enjeu économique, donc moins d'1%, je crois, du PIB, global, et l'importance que ça a pris dans ces négociations?
C'est l'illustration parfaite de la pleine souveraineté retrouvée par le Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est le Royaume-Uni, avec le Brexit, et Johnson l'a martelé, retrouve le contrôle des règles, des frontières, des eaux. Il y a quelque chose de profondément identitaire. C'est très fort, en effet. Comme vous le dites, l'impact économique est minime. Mais c'est particulier. Et puis c'est une question qui est particulièrement sensible dans des régions comme l'Écosse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le talon d'Achille de Boris Johnson dans la négociation. Parce que les attentes écossaises pour défendre l'accès plein et entier aux eaux britanniques sont énormes. Il sait très bien que s'il déçoit sur ce chapitre-là, il va attiser à nouveau les aspirations et une indépendance de l'Écosse.
Avec le parti indépendantiste écossais qui est maintenant en tête dans les sondages. Kevin O'Rourke, nous avons pu rétablir la liaison avec vous. Et avec vous, retournons en Irlande, ou plutôt dans cette frontière possible entre les deux Irlandes. On se souvient du drame irlandais. Est-ce que on peut craindre un regain des tensions entre catholiques et protestants qui ont ensanglanté l'île et surtout la partie nord-ouest de l'île il n'y a pas si longtemps?
Ben écoutez, l'accord du Vendredi Saint a mis fin à ce conflit en faisant en sorte que si vous étiez catholique et nationaliste, vous sentant irlandais en Irlande du Nord, le fait que vous soyez du mauvais côté du frontière, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que vous pouviez avoir la nationalité irlandaise et la frontière était invisible. Donc si la frontière revient, encore une fois, vous serez du mauvais côté d'une frontière et donc il y aura un enjeu qui reviendra et il y a aussi une cible qui reviendra. Donc c'est très dangereux et c'est pour cela qu'il y a eu ce protocole sur l'Irlande dans l'accord de divorce conclu avec les Britanniques au mois de janvier. Et si les Britanniques procède avec ce projet de loi. Et alors, il y a deux conséquences. D'abord, on risque d'avoir encore une fois la frontière, mais ensuite, c'est toute la crédibilité de l'Union européenne qui est en jeu. Parce que, comme on avait entendu, on est maintenant à un stade où on a des ambitions de jouer dans le cours des grands, avec les Chinois, les Russes, les Américains. Et si on accepte, si on tolère qu'un pays de taille moyenne comme le Royaume-Uni signe des traités avec nous, dégage les bénéfices dont elle en a envie, et puis il nous dit, tant pis, on va pas faire ce que vous avez promis. C'est toute notre crédibilité qui est en jeu. Donc il faudra bien sûr riposter, et cela empoisonnera bien sûr les relations entre nous autres et les Britanniques, mais bon, ça sera des conséquences de leur choix. Mais on rentre dans des eaux dangereuses avec ce projet de loi, et il me semble qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est en fait beaucoup plus important comme principe que la pêche ou les aides d'État. Pacta sunt servanda, c'est quand même important.
Bien sûr. Et revenons précisément, Hélène Rey, aux enjeux proprement économiques et même au-delà de la pêche, parce que il faut quand même toujours rappeler, non seulement, comme l'a dit Emmanuel Macron hier en quittant Bruxelles, que ce sont bien les Britanniques qui veulent quitter l'Union européenne et les 27 ne sont pas là pour faire plaisir à Boris Johnson, on voit néanmoins que le déséquilibre des échanges commerciaux il se fait au détriment de la Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus dépendante du marché unique européen pour ses exportations que ne le sont les 27 par rapport au marché britannique.
Absolument. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres commerciaux du Royaume-Uni, l'Union européenne, c'est à peu près, c'est plus de 50% de tout le commerce extérieur du Royaume-Uni dans le domaine des biens, et c'est à peu près 45% dans le domaine des services. Donc, c'est le Royaume-Uni est extrêmement dépendante vis-à-vis de l'Union européenne, ce qui n'est pas très étonnant, étant donné la position géographique du Royaume-Uni, qui est voisin de ce grand continent, de ce grand marché unique qu'est l'Union européenne.
Oui, et donc, ça, Boris Johnson ne peut rien y faire. Il ne peut pas changer la géographie.
Voilà, exactement. Donc, quand Boris Johnson parle d'accord commercial qui serait similaire à celui de l'Australie, par exemple, comme il l'a fait récemment, prétend que le Royaume-Uni pourrait tout à fait tirer son profit d'une telle situation, c'est un petit peu un déni de la géographie et de la nature des échanges qui se font entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui sont beaucoup plus des échanges qui ont en termes de biens manufacturés, en termes d'intégration de chaînes de production, en termes de services, et qui sont évidemment tout à fait différents par rapport au type d'échanges que l'Australie peut avoir avec l'Union européenne, qui sont bien plus des choses comme le charbon, les exportations australiennes sur le charbon, l'or, enfin c'est complètement différent en termes de structure commerciale. Donc le problème pour Boris Johnson, c'est qu'il a effectivement pris des postures très très marquées en prétendant à de nombreuses reprises que le Royaume-Uni avait toutes les cartes entre les mains, que le deal commercial avec l'Union européenne était prêt. Il a pris la métaphore culinaire, il est prêt à être mis au four. Et là, on se rend bien compte que le deal n'est pas prêt, il ne marche pas. Donc maintenant, on essaye de rejeter la responsabilité sur les 27 et on en est là. Mais en attendant, si on parle de façon concrète, si on n'a pas de deal en janvier, pour les consommateurs au Royaume-Uni, on a un risque assez fort d'augmentation du prix des aliments, d'augmentation du prix des médicaments. Comme vous l'avez dit, Christine, de chaos à la frontière avec des grands parkings dans le Kent et ces millions de déclarations de douane qu'il va falloir remplir puisqu'on n'aura plus les mêmes normes forcément. Enfin, de façon bureaucratique, c'est
un cauchemar.
Le coût est assez cauchemardesque, comme vous l'avez relevé. Mais cela va plus loin. On peut se demander, quand on est après une grande entreprise internationale, si on ne va pas chercher à limiter une exposition au Royaume-Uni en raison de l'incertitude sur les contrats, sur les futures régulations. Donc cela va mettre pas mal de sable dans les grains de l'investissement international, potentiellement. Et il y a tous les autres domaines qui font qu'un grand marché unique marche, qui ont lieu à la régulation, qui à mon avis sont très sous-estimés dans les coûts. La certification des biens dans l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, quand on aura des régulateurs des deux côtés du channel, pour les entreprises, ça va être des coûts assez élevés. Et tout ce qui a trait à la circulation des données. On a parlé du développement du secteur high-tech qui est voulu effectivement par Dominic Cummings et Monsieur Michael Gove aussi, ici et peut-être aussi dans les ambitions donc de Boris Johnson. Mais pour toutes ces technologies d'avenir, qu'on parle de fintech, qu'on parle de high-tech en général, d'objets connectés, les législations qui auront trait aux flux de données vont être très très importantes. Et là, une divergence entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait avoir aussi des conséquences à moyen et long terme qui sont non négligeables.
Un mot encore, Hélène Ray. On n'a pas parlé de la City. Comment se fait-il que les milieux d'affaires ne se préoccupent pas davantage ou ne font pas davantage pression, semble-t-il, sur le gouvernement Johnson pour préserver le rôle de la place financière?
Alors c'est
parce que plusieurs banques ont déjà, je crois, exporté vers le continent et notamment vers Paris les équipes de trading. Donc là, c'est aussi un enjeu considérable.
Alors il y a effectivement déjà eu quelques mouvements depuis entre Londres et puis que ce soit Francfort, Amsterdam, Paris, Dublin, hein, il y a une espèce de recomposition géographique qui s'opère. Elle n'est pas encore très importante quantitativement en termes de délocalisation. Mais on peut effectivement s'étonner un peu que le gouvernement ait marginalisé la City dans les négociations, ne se soit pas occupé plus du domaine du secteur financier par rapport à, comme on l'a rappelé, le secteur de la pêche ou des aides d'État. Et là, donc, on peut pas deviner évidemment ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a une hypothèse qui me paraît probable, c'est que le gouvernement peut aussi penser que la City était là avant l'euro, que la City était très globale, ce qui est vrai. Il y a énormément de commerce qui est dans les services financiers qui est aussi extra-européen, et que donc la City pourra tirer son épingle du jeu, même en l'absence du fameux passeport européen qui permettait aux entreprises basées à Londres de faire du commerce directement dans le marché unique. Alors, ça peut être c'est peut-être un pari qui ne marchera pas, hein, en pratique, puisque une bonne partie des services financiers vont devoir dépendre de la Commission européenne, qui va donner son accord pour l'équivalence ou pas des régulations du Royaume-Uni vis-à-vis des réglementations européennes. Et une équivalence, ça peut être révoqué aussi au cours du temps, donc il y aura beaucoup plus d'incertitudes. Et je crois qu'on comprend assez mal les interactions entre les différents éléments de l'écosystème de la City, que ce soit les services financiers, les services légaux, les cabinets de conseil. C'est tout un écosystème qui marche ensemble. Et donc quand il y a une partie de cet écosystème qui part, combien d'emplois partiront avec lui? Je crois que c'est quelque chose qu'on a encore un peu de mal à évaluer. Donc c'est un pari, je crois, que le gouvernement a fait en ne se focalisant pas trop sur la City, et on va voir ce qui va se passer.
Un pari de plus. Merci Hélène Rey d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je retourne vers vous, Kevin O'Rourke, pour vous interroger sur les pulsions centrifuges que l'on voit à l'œuvre dans ce qu'on appelle encore, et depuis fort longtemps, le Royaume-Uni. On sait, et il y était fait allusion tout à l'heure, qu'en matière sanitaire, depuis Tony Blair, les différentes grandes régions ont des politiques de santé publique distinctes. Le pays de Galles, l'Écosse, qui n'est pas une région, mais beaucoup plus que cela. Le Covid accentue cette dynamique-là de remettre en cause le magistère de Londres, de Downing Street et même du Parlement.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'Écossais qui ont l'impression que le gouvernement écossais a beaucoup mieux géré la crise sanitaire que le gouvernement à Londres. Et bien sûr, ça, c'est un argument pour les indépendantistes. En même temps, ce même projet de loi, l'Internal Market Bill, et la logique qui va derrière ça, essaie de imposer sur les Écossais potentiellement des normes sanitaires concernant la nourriture qui serait peut-être américaine. Et ça non plus, les Écossais ne le digèrent pas très
oui,
bien.
Oui, le fameux poulet chloré.
Voilà. Et donc, vous voyez bien que cela pourrait être un énorme cadeau pour Nicola Sturgeon, chef de file des indépendantistes. Si, en plus, il y a un Brexit chaotique, comme le disait Charles, ce sera encore un cadeau. Et c'est ça le drame, vraiment. Je lis pas mal de unionistes écossais qui écrivent dans les journaux comme The Times ou The Spectator ou autres, et ils sont presque prêts, on a l'impression, à jeter l'éponge, ce qui est dramatique pour eux parce qu'ils sont écossais, mais aussi britanniques. Et ce qu'ils reprochent à Londres, c'est qu'en fait, les Anglais n'essayent plus vraiment de conserver l'Union. Ce n'est plus une priorité pour eux. Ils agissent comme ils le souhaitent sans prendre en compte les intérêts écossais. Donc, et en plus, si vous étiez cynique, vous pourriez aussi dire que ben, sans l'Écosse, ce serait beaucoup plus facile pour les conservateurs d'avoir des majorités à la Chambre des communes. C'est peut-être un peu trop cynique. Mais souvent, quand les indépendantismes gagnent, c'est parce que le centre perd l'intérêt à conserver
oui,
l'Union.
Mais Kevin, il faut quand même rappeler que l'Union entre l'Écosse et l'Angleterre remonte à 1707. Donc ce oui. serait quand même une déchirure terrible dans le tissu national britannique.
Oui, bien sûr, en tant qu'Irlandais, je suis probablement favorable à l'indépendance écossaise, mais ayant vécu maintenant en Grande-Bretagne pendant plusieurs années et enseigné à Oxford, je comprends que pour beaucoup de Britanniques, ils sont vraiment britanniques, hein, ils sont pas anglais ou écossais, ils ont cette identité en commun. Et si on voulait tracer une narrative positive pour le Royaume-Uni, ça serait justement que c'est une union multinationale de quatre pays qui a connu beaucoup de succès pendant des siècles. Mais si c'est ça votre narratif, alors il faut agir de façon cohérente. Et par exemple, il ne faudrait pas quitter l'Union européenne avec l'aval de seulement deux des quatre pays concernés, par exemple.
Kevin O'Rourke, merci d'avoir été avec nous. Et retournons précisément à Oxford, vous rejoindre Calypso Nicolaïdis. Je rappelle que vous enseignez à Oxford les relations internationales. Les relations internationales commerciales. On a vu que Boris Johnson, quand il s'est fait élire dans la joie et l'allégresse, c'était évidemment avant la pandémie, mais sa promesse c'était « Oh, avec moi, le Brexit, ça va se passer dans un claquement de doigts et de toute façon, nous allons immédiatement avoir un excellent traité commercial avec les États-Unis ». Et là, douche froide, pas de traité commercial avec les États-Unis, néanmoins un traité, je crois, avec le Japon qui a été signé. Est-ce qu'il y a, par rapport à l'enthousiasme du Brexit en 2016, puisqu'il y a eu cette majorité-là de Britanniques qui ont voté pour, est-ce que l'opinion publique a changé, a perdu cet enthousiasme ?
Il y a effectivement deux questions que vous soulevez là, Christine. D'une part, le fait que toute cette saga du Brexit, comme le disait Kevin tout à l'heure, elle se joue dans la cour des grands, dans une dimension globale et géostratégique. Et donc, ça, l'opinion britannique en est témoin. C'est-à-dire que on se rend bien compte dans ces quatre ans que effectivement cet Eldorado d'une Grande-Bretagne globale qui va avoir des traités avec tous les pays du monde libres de la position commune européenne, c'est un peu du pipeau. D'abord parce que finalement il y a une interaction entre tous ces accords et on le voit bien avec l'ironie de l'accord avec le Japon, le seul, comme vous dites, qui a été négocié, pas encore bien sûr mis en place, mais où on voit que finalement pour tous ces pays du monde, et ce qui compte quand même avant tout, c'est leur relation avec l'UE. L'UE est un grand bloc commercial avec qui est quand même le plus grand bloc commercial du monde. Et donc le Japon, eh ben, quand il signe avec la Grande-Bretagne, il veut par exemple que ces règles sur la concurrence loyale, dont parlait Elvire tout à l'heure, soient mises en place. Et donc la Grande-Bretagne se retrouve tout à coup dans une situation où les accords, son accord avec le Japon va lui-même avoir des grosses implications sur ce qu'il fait avec l'Europe. Parce que l'Europe, tout le monde dans le monde aujourd'hui, se préoccupe de ces règles de concurrence, avant tout à cause de la Chine, si je peux mettre la Chine dans le tableau ici. L'Europe a pour grande ambition, quand le Covid se sera un peu calmé, on ne sait pas s'il va disparaître, que la Chine respecte au moins des règles de transparence à l'OMC, en tout cas des règles de base, parce que sinon on ne peut pas continuer comme ça dans l'économie globale.
Vous avez vu, Calypso, lors du sommet de Bruxelles, a été annoncé par Madame Merkel l'annulation du sommet que les 27 devaient avoir entre eux, pour décider précisément d'une politique commune vis-à-vis de la Chine.
Absolument, parce que depuis 2-3 ans, on considère vraiment la Chine, y compris comme un rival stratégique, y compris dans le domaine commercial. Et si la Chine ne bouge pas, eh ben, on lui montre que, bon, on peut pas parler. Tout ça est un peu parallèle avec le Brexit. On a raison. Parce que il faut que la Chine respecte effectivement des règles qui inquiètent de plus en plus les pays du nord de l'Europe qui pendant longtemps soutenaient l'ouverture à la Chine, etc., contre les pays du Sud, plus protectionnistes. Il y a un peu une inversion en Europe aujourd'hui. Et donc, tout ça, c'est le contexte pour l'Europe, mais qui influe sur la Grande-Bretagne, qui elle-même veut dealer avec la Chine, mais qui ne peut pas le faire si la Chine ne respecte pas des règles minimums. Sinon, elle envahirait aussi les marchés britanniques. Donc, tout ce dont on s'aperçoit, vous parliez du poulet tout à l'heure, dans l'opinion britannique, eh bien, c'est que le Brexit, c'est bien plus compliqué que ça, que la nostalgie impériale, ben, ça sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'opinion publique, il y a eu un sondage récent de YouGov qui montre qu'aujourd'hui, il y a 49% des Britanniques qui pensent que le Brexit était une erreur et 38% qui pensent que non, les autres étant entre les deux. Donc, les lignes ont bougé, pas radicalement. Une grande majorité des deux côtés restent sur leur position, mais les lignes bougent. Et le dernier point là-dessus, c'est que les jeunes en particulier, qui étaient en 70% contre le Brexit, eh ben, ils ont maintenant l'âge de voter, d'agir en politique, et c'est aussi eux qui font bouger les lignes, et y compris sur les grands problèmes globaux comme le climat.
Oui, néanmoins, le processus est engagé, il doit aller à son terme d'une manière ou d'une autre. Un mot encore, Calypso Nicolaïdis, sur au-delà des négociations commerciales pour un mode de Brexit, quel qu'il soit, d'ici la fin de l'année, on constate quand même toujours une convergence de vues sur les enjeux géopolitiques. On a vu que la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont sur la même longueur d'onde dans l'affaire Navalny, dans l'affaire de la Biélorussie, vous avez parlé de la Chine, il y a aussi la Turquie au sein de l'OTAN. Donc, en fait, les grands enjeux géopolitiques, il n'y a pas que la position géographique de la Grande-Bretagne, il y a aussi une communauté d'intérêts qui demeure et qui perdure.
Une communauté d'intérêts, tout à fait, Christine, je dirais presque aussi de valeurs, sans vouloir être grandiloquent. Et c'est ça quand même peut-être l'ironie de toute cette histoire du Brexit, c'est que quand on regarde le monde aujourd'hui, quand on regarde tous ces hommes autoritaires qui veulent imposer un ordre mondial bien différent de ce que pensent les Européens, évidemment qu'on est ensemble. Évidemment que quand on voit la dimension globale, c'est ce qu'on appelle toujours la tyrannie des petites différences dans le monde auquel on fait face. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'après tout le brouhaha qu'il y aura eu d'une façon ou d'une autre d'ici à janvier, on va revenir à une vraie coopération dans le domaine de la politique étrangère, de la politique globale, que ce soit au niveau européen d'ailleurs ou au niveau bilatéral entre la France et la Grande-Bretagne.
Il faut et au niveau des politiques de défense.
Et au niveau des politiques de défense, le président Macron a créé évidemment une initiative, ces forces d'intervention qui peuvent elles-mêmes contenir des pays non UE. Et il pensait bien évidemment à la Grande-Bretagne. Donc il y a des structures bilatérales, plurilatérales et européennes qui vont continuer. Après, les Britanniques préfèrent avoir des coudées un peu plus franches. Mais
ça, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. Et ce qu'ils aiment, c'est dire, nous allons décider tout seuls de coopérer avec l'Europe. Ce sera le truc de Boris.
Merci Calypso pour votre contribution et Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Revenons sur le continent pour conclure provisoirement. Donc on sait que Michel Barnier va à nouveau s'entretenir avec son homologue britannique David Frost lundi sur ce qu'on appelle le format. Tous nos interlocuteurs outre-Manche en fait espèrent, mais aussi annoncent d'une certaine manière une marge de compromis possible, une marge de négociation possible pour adoucir ce qui serait un Brexit dur et dont on comprend bien qu'il serait quand même mauvais pour tout le monde, y compris pour nous.
Oui, ce que les 27 veulent préserver, c'est une dynamique de dialogue, d'engagement. Voilà, avoir quelque chose sur la table à négocier. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que la cohésion des 27 reste très forte. Elle nous a surpris depuis le début. Elle a été renforcée avec l'arrivée de la crise du Covid, parce que les Européens ont plus que jamais en tête de préserver le marché unique et de ne pas justement l'exposer à cette fameuse concurrence déloyale qui pourrait venir du Royaume-Uni. Et elle vient encore d'être renforcée par la règle sur le marché unique britannique, parce que en effet, la perspective qu'il puisse y avoir un non-respect de l'accord, non seulement a fini d'éroder toute la confiance qu'il y avait là dans le cœur des négociations, mais renforce encore plus les 27 dans la conviction que il faut se méfier de la partie britannique. Et puis c'est tout le terrain de la coopération des années à venir, parce qu'en effet ça a été évoqué, c'est-à-dire que là ce qui est en jeu, c'est d'abord le cœur commercial de l'accord, mais il y a toute une série d'enjeux qui relèvent de la coopération policière, judiciaire, sur la question des données. On voit bien que tout le
développement et le terrorisme qui, hélas, chez nous, est à nouveau à l'ordre du jour.
Oui, plus que jamais, les capacités de renseignement du Royaume-Uni qui sont excellentes et dont on sait que c'est un partenaire clé pour la France. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord à minima, même sur un accord à minima dans les semaines qui viennent, on peut s'interroger un petit peu dans les mois qui viennent sur l'esprit de coopération qu'on aurait sur d'autres enjeux et même sur un terrain géopolitique, géostratégique beaucoup plus large. Parce que vous évoquiez cet alignement sur les intérêts, on pourrait rajouter l'Iran également, où on a des positions communes, on a par définition. Qu'est-ce que ça va devenir sur la scène du plus large, la grande scène internationale, avec des États-Unis qui eux-mêmes souhaiteront attirer le Royaume-Uni dans une logique d'alignement sur leurs intérêts. Et on voit bien que déjà, sur la question du transfert des données, c'est une question qui se pose, puisque les États-Unis, dans leur mandat de négociation, souhaitent que le Royaume-Uni ne reprenne pas toute la politique de protection des données personnelles européennes.
Et ce, quel que soit le prochain président des États-Unis. Une question encore, Elvire, matériellement, pratiquement, étant donné la complexité de ces négociations, est-ce qu'on a vraiment le temps, d'ici la fin de l'année, d'ici le 1er janvier 2021, d'arriver à résoudre cette jungle de problèmes ?
Non, ça veut dire se mettre d'accord sur des principes généraux qui permettront de continuer à négocier dans les mois et les années qui viennent. Mais au moins, on se sera mis d'accord d'une part sur des principes généraux et d'autre part sur un mécanisme de règlement des différends, de disputes qui encadrera cette amorce de négociation. C'est ce que souhaitent les Européens depuis le début, et c'est pour ça qu'ils tiennent à cet encadrement de la gouvernance dans l'accord.
Eh bien, merci à vous tous. Merci à vous, Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Je précise que vous avez publié il y a quelques jours sur le site de l'Institut une note très fouillée sur cette question des aides d'État dont on a bien compris, grâce à vous, qu'elle est au centre des problèmes qui demeurent entre la Grande-Bretagne et nous. Merci à Hélène Ray, professeure d'économie à la London Business School, à Calypso Nicolaïdis, qui enseigne les relations internationales à Oxford, à Charles Grant, le directeur du Center for European Reform, et je recommande là aussi le site de cet excellent institut qui a aussi une antenne à Bruxelles. Merci à Kevin O'Rourke qui enseigne l'économie à l'université New York à Abu Dhabi, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Edouard Rubinstein. Hugo Boursier a préparé comme chaque semaine avec moi cette émission. Comme chaque samedi, vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette. Mais je précise qu'Émilie Aubry, demain, dans l'esprit public, reviendra évidemment très longuement sur l'horrible attentat islamiste commis hier après-midi à Conflans-Sainte-Honorine. Et ce sera évidemment, bien sûr, avec notre ami Guillaume Erner, le thème central de la matinale de France Culture, lundi matin. Malgré tout, bon week-end à tous.